Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Voilà, donc l'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur soi, sa vision sur le monde à travers les personnes que je rencontre, soit en voyage, soit sur des festivals comme celui-là, un salon du tourisme, où j'ai été attiré par Bestiole. Il s'appelle Bestiole. Donc Bestiole est un petit van Volkswagen aménagé dans lequel tu as habité, ou tu habites encore, on verra ça. Tu fais partie de cette grande famille des vanlifers, donc la vanlife, hein, hashtag vanlife, quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus sur les réseaux, avec une explosion depuis le Covid où tout le monde a voulu prendre la route, s'est rendu compte que ben, confiné chez soi entre quatre murs, c'est pas forcément les clés pour mettre la joie au cœur de sa vie. Et souvent le mouvement, la liberté, voilà, sont des concepts qui font rêver. Donc Clémence avec moi, avec nous aussi un bouquin que tu as écrit, Drive Your Adventure, donc, conduis ton aventure. Où on parlera donc de van life, là c'est la Norvège en van. Mais bon, avant d'en arriver là, je m'intéressais un petit peu à toi Clémence, à ton parcours, à ton itinéraire, à ton histoire, et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, tiens, maintenant j'ai envie de moi aussi expérimenter la van life.
Alors, pour résumer, parce que forcément le parcours s'est fait dans ma tête depuis mes plus jeunes années, puis mon adolescence, mais je pense que le déclic, c'est, je pense, arrivé à mes 30 ans, en fait, je pense comme beaucoup de gens, forcément un petit peu remise en question. À 20 ans, je ne m'imaginais pas du tout là, en fait, je crois, à 30 ans. Et puis la vie classique et sédentaire que je menais me convenait pas du tout, me remplissait pas. Souvent, j'emploie ce mot, je trouve qu'il est très juste, me remplissait pas. Comme tu disais tout à l'heure, j'y trouvais pas du tout de bonheur, pas de joie, alors que pourtant, sur le papier, j'avais un peu tout ce que on nous dit qu'il faut avoir en fait dans la vie. Et voilà, donc j'avais à ce moment-là, j'avais envie du coup de partir voyager mais vivre ailleurs en fait, vraiment, donc être expat. Et c'était cette idée là que j'essayais de mettre en œuvre depuis à peu près 6 mois, 1 an. Et en fait, du coup, avec mon compagnon de l'époque, à ce moment-là, on avait prévu de partir 15 jours en voyage en itinérance au Canada, donc vraiment en mode vacances, hein, et on voulait louer un van, parce que, bah, évidemment, ça se faisait beaucoup en Amérique, sur le continent américain. Et en fait, c'était trop cher, parce qu'on voulait le faire en one way, hein, donc de Vancouver à Calgary, et ça coûtait trop cher. Donc ce qu'on a fait, bah, on s'est rabattu sur le plus gros break, la location du plus gros break du marché américain, donc, qui est un grand caravane, et qui permet en fait d'avoir à peu près 2 mètres à l'arrière. Donc on arrive à Vancouver, on passe chez Ikea, on achète un matelas, on achète 2 coussins, on avait pris nos duvets et voilà, on a parcouru pendant 15 jours en plein automne tout l'ouest du Canada dans ce break en fait. Et quand on est rentré en France, donc évidemment une aventure incroyable, et quand on est rentré en France, l'idée de vivre à l'étranger s'était muée, dans ma tête en tout cas, à pas juste vivre à l'étranger mais vivre différemment et pourquoi pas en itinérance en fait, donc vivre nomade complètement. Et au printemps, l'idée avait bien évolué puisqu'on était en train de chercher le van, on avait annoncé à nos familles officiellement, donc une fois qu'on annonce quelque chose, c'est un peu comme si c'était un contrat qui était posé. Et voilà, donc on cherchait le van pour partir vivre comme ça sur les routes d'Europe, parce que j'ai un chat, donc c'était l'Europe. J'ai lâché mon CDI, en juin on lâchait l'appartement qu'on louait. Et en juillet on partait dans la maison, une maison de ses parents, ils vivaient en plein cœur de l'Ariège, à côté de Tarascon-sur-Ariège en fait. Et voilà, on est parti convertir le camion qu'on avait trouvé, qui s'appelle le Lieutenant. Donc c'est pas Bestiole, à l'époque c'était le Lieutenant, c'était un LT40, un beaucoup plus gros Volkswagen quand même, hein, des années 90. Et voilà, donc pendant plusieurs mois on a converti ce van avec le papa de Thomas, donc mon ancien compagnon. Alors il faut savoir qu'à l'époque la van life n'était pas vraiment arrivée en France, donc il n'y avait pas, c'était pas trop encore, les gens avaient aménagé leur van mais ils n'en parlaient pas sur les réseaux, donc pour trouver des ressources pour arriver à faire ça soi-même derrière, c'était pas évident. Moi, je suis architecte d'origine, donc bon, dessiner de mobilier, aménager un espace, c'était pas un problème, et tout le côté technique, isolation, tout ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel je me suis renseignée, les matériaux, les machins, tout ça. Donc on a fait ça, on pensait que ça nous prendrait quelques semaines, ça a pris plusieurs mois, et du coup, à la veille de Noël 2017, du coup, eh ben, on a pris la route, et on est parti, on a passé notre première nuit dans le Lieutenant, en Italie, et ça a commencé comme ça. Donc voilà, donc en fait c'était vraiment une envie de voyage, une envie de voir ailleurs, de découvrir ailleurs, mais La van life, en fait, a ça de plus que l'expatriation, dans le sens où c'est finalement pas calquer le mode de vie qu'on avait ici ailleurs et finalement se retrouver dans les mêmes problématiques de vie classique, sédentaire, fixée à un point et devoir en plus recommencer sa vie à zéro. Donc au final, ça aurait pas été une bonne solution. Et là, l'idée, c'était plutôt de prolonger cette vie, mais d'une façon différente, avec un vrai retour à l'essentiel.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc tu dis beaucoup de choses dans ton introduction. Non, c'est parfait. Donc je vais te demander peut-être dans un deuxième temps la van life, qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi vivre dans un van, parce qu'il y a du rêve à la réalité. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait vraiment fantasmer, mais bon, j'imagine que c'est pas forcément l'image d'Épinal qu'on peut avoir de vivre en van. Tu disais que tu arrivais un petit peu dans ce credo-là avant l'arrivée de l'explosion des réseaux sociaux, avec tout le monde où on voit boire un café en ouvrant la porte de son van avec les pieds qui dépassent, des très belles images sur les réseaux sociaux. Tu disais aussi en Ariège, parce que là-bas il y a quand même pas mal de gens qui vivent déjà en camion aménagé, non? Oui. C'est quelque chose qui est très fréquent dans cette région la France où beaucoup de gens vivent en camion.
Alors oui, c'est vrai. Après, je pense que les aménagements qui, dans ce type de camion en tout cas, sont quand même quelque chose peut-être d'un peu plus... Il n'y a pas forcément de voyage, je crois, pour les en Ariège, les gens qui vivent en camion. C'est vraiment plus un local de vie un peu alternatif qui permet, selon certaines occasions, selon certaines des festivals, choses comme ça, pouvoir se déplacer, du coup, voilà, pouvoir bouger en même temps que ce qu'on a envie de faire. Moi, j'avais vraiment cette envie de retourner à l'essentiel. C'est-à-dire que, étant dans l'architecture et le design, moi, je m'étais entourée de plein d'objets à ma maison et tout ça. Et j'avais juste, à un moment donné, pété un plomb et j'ai juste eu envie de me débarrasser de toutes ces choses-là et de revenir à l'essentiel. Donc je suis passée de vraiment cette vie où on a tout le confort, hein, comme la plupart des gens dans un appartement avec l'eau courante, l'électricité, le chauffage, machin, nanana, à ce van où moi je voulais pas de douche, je voulais pas de gaz fixe, je voulais absolument rien de tout ça. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur et c'est pas du tout quelque chose qui me faisait peur. J'avais pas l'impression que ça allait être un effort pour moi, pas du tout. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, je te confirme que c'est pas du tout un effort et encore aujourd'hui, je reviens pas là-dessus. Et même au contraire, à chaque fois que je revenais en France, je me délestais encore de certaines choses, quoi.
Donc tu parles d'un retour à l'essentiel, donc pour toi, en tout cas, ton essentiel à toi, c'est vraiment de te libérer d'un maximum de contraintes matérielles.
Oui, en fait, je pense que c'est me libérer, mais je pense que surtout, je trouve que tous ces objets finalement brouillent notre perception. De là où doit se trouver le bonheur, en fait. Les objets, c'est pas un problème, c'est ce qui catalyse un petit peu notre fausse idée de ce qu'on fait du bonheur, en fait. C'est-à-dire que les objets, évidemment, c'est pas eux qui font qu'on peut pas être heureux. En revanche, on se nourrit, on pense se remplir en achetant des objets, et finalement, c'est pas ça du tout qui nous remplit. Donc c'est juste arriver à différencier, en fait, la source de ce bonheur, quoi. Donc les objets en soi, c'est rien de mal, c'est juste que nous, l'humain, je pense, dans l'absolu, dans les villes, dans une vie un peu classique, va se nourrir des objets pour compenser quelque chose qu'il n'a pas par ailleurs, quoi.
Avec ton ancien compagnon, vous retapez, vous aménagez ce LT40, donc ce lieutenant. Qu'est-ce qu'on met, comment on aménage un van? Parce que ça aussi, je pense que c'est bien de ramener peut-être à une certaine réalité, parce que beaucoup de gens autour de moi, j'entends dire, je cherche un utilitaire pour l'aménager, mais on ne se rend pas forcément compte de la masse de travail qui est derrière. Donc si tu peux nous parler de ce que c'est qu'aujourd'hui aménager un van, et peut-être aussi amener un éclairage sur la partie réglementation aujourd'hui en France sur les vans aménagés.
Alors, pour la partie réglementation van aménagée, à l'époque où j'ai aménagé mon van, elle n'existait pas encore. Elle était prévue de sortir, mais elle n'était pas encore prévue. Donc le problème ne se posait pas vraiment, et même au contraire, on était content de voir qu'on n'y était pas encore et que nous, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc je m'étais complètement affranchie de ce règlement-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses. Il faut absolument avoir un point fixe pour la table, il faut absolument avoir un point ou d'eau ou de gaz fixe, c'est ce genre de choses. Et après, il y a des angles par rapport au mobilier, ce genre de choses. Là, pour le coup, mon amoureux pourrait mieux t'en parler que moi parce qu'il est aménageur. Donc, il pourrait te le dire. Mais voilà, après, moi, c'est des choses dont je me suis affranchie, en tout cas dans l'aménagement de mon premier van.
Mais il existe bien une réglementation en France.
Oui, tout à fait. Oui, il existe tout à fait une réglementation qui s'appelle le VASP, en fait. C'est des normes auxquelles il faut répondre pour pouvoir avoir la carte grise véhicule de loisirs, en fait, tout simplement. Donc pour ma part, moi je m'en suis affranchie. Alors comment on aménage ça? Alors encore, comme je disais, moi je suis designer, tout ça, donc dessiner l'immobilier, c'est pas un souci, évidemment. Optimiser l'espace, c'est pas un problème. En revanche, on a vite des problèmes quant au poids du mobilier, parce qu'évidemment, il ne faut pas dépasser 3 tonnes 5, tout ça. Et moi, mon van à l'époque était déjà un gros monsieur et bien lourd. Donc, c'était réduire au maximum, donc trouver les bonnes essences de bois, limiter les portes, ce genre de choses, plutôt trouver des astuces, donc des sandos. Tu vois, les sandos, c'est les cordes un peu élastiques, là, donc pour bloquer les placards, ce genre de choses. Après, il y avait évidemment le problème de l'isolation, le problème de l'électricité. Alors, en sachant qu'une installation électrique 12 volts dans un camion n'a absolument rien à voir avec une installation électrique classique. Donc, même si mon beau-père, de l'époque, avait certaines connaissances en l'électricité, en la matière, il a dû quand même réapprendre pour ça. Donc là, pour le coup, ça a vraiment été sa partie. Je m'y suis intéressée, mais c'est vraiment lui qui a fait ça. Et côté isolation, on reste quand même dans un véhicule, c'est pas une maison, donc il faut pas se leurrer, on n'aura jamais une vraie isolation, d'autant que, comme dans une maison, il y a des fenêtres sur un van, enfin, pour la plupart, en tout cas, on cherche à... Et du moment, de toute façon, que dans un véhicule, même dans une maison, on a des fenêtres, on a des déperditions calorifiques. Donc forcément, on ne peut pas du tout s'isoler complètement du froid ou du chaud. Parce que finalement, le plus embêtant dans un van, moi, je trouve que c'est la chaleur et pas le froid. En revanche, il faut se prémunir de l'humidité, beaucoup. Voilà, ça fait partie des choses auxquelles il faut vraiment penser dans un aménagement, l'humidité... l'isolation, moi je pense qu'il ne faut pas partir dans des usines à gaz, comme on dit. Et puis après, je pense que peut-être un des meilleurs conseils que je donne, alors à l'époque pas du tout, parce que pour le coup, la première nuit que j'ai passée dans le lieutenant, j'avais jamais vraiment, à part dans le break au Canada, j'avais jamais vraiment dormi dans un véhicule. Donc c'est quand même assez dingue, parce qu'on ne l'a pas vraiment testé, on est vraiment parti direct, parce qu'on était tellement en retard sur le planning qu'on n'a pas voulu, attendre, on est parti. Mais c'est aujourd'hui le conseil que je donne aux gens, c'est louer. Si vraiment vous voulez. Vivre en van, ou en tout cas voyager au long cours en van, testez-vous en fait. Louez un van pendant 1, 2, 3 jours, plusieurs fois peut-être, sur des différentes durées, sur différents gabarits de fourgons ou de van, pour se tester, savoir ce dont on aura besoin à bord, ce qui sera incontournable pour nous. Voilà, moi je sais que par exemple j'ai besoin de pouvoir me tenir debout dans mon van, d'où bestiole qui est quand même assez haute sous plafond, et j'ai besoin d'avoir des toilettes sèches à bord, voilà. Mon ancien compagnon par exemple, pour lui ça a été très très compliqué parce qu'on n'avait pas de douche. Sur le principe au départ il était ok, et après ça lui a vraiment vraiment manqué par exemple, donc ça dépend vraiment de chacun.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Clémence, Paul, j'ai avec nous le bouquin Drive Your Adventure. Donc toi, tu vis ou tu as vécu dans un van pendant plusieurs années. D'abord, il y avait le lieutenant, ensuite Bestiole qui est là présent sur le salon. Tu as fait un projet de livre qui parle un petit peu de cette van life. Donc voilà, avant de parler de ce livre, il y avait cette notion du rêve à la réalité. Vivre en van fait rêver. La réalité, il y a peut-être des contraintes qui est peut-être celle de la météo, de la pluie, des nuits longues en hiver, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est avec toi que j'ai envie de découvrir un petit peu l'effet qui se coule, le double effet de la van life.
Oui, tout à fait. Tu vois, c'est vrai que c'est en ça que je dis que c'est important de se tester peut-être avant de partir, pour savoir justement aussi, c'est-à-dire que même sans vivre en van, même le voyage en van déjà permet d'appréhender un peu tout ça. Donc tu parlais de la météo, évidemment c'est la chose numéro 1. On décide de partir selon la saison, même si on vit en van, forcément c'est du toute saison, et dès qu'on arrive à l'automne et hiver, se pose le problème de la pluie, se pose le problème du froid, et surtout se pose le problème de l'humidité, qui est pour moi la pire des choses à bord d'un van, quoi. C'est-à-dire que l'humidité, elle est là, on la combat pas, quoi. C'est-à-dire que quand il fait froid, l'humidité rajoute à quelque chose, et puis ça pose une atmosphère pas toujours très agréable. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment le truc numéro un. Et après, alors c'est assez bizarre d'ailleurs, parce que quand je me suis séparée du lieutenant et que j'ai envisagé du coup d'avoir un second van pour ma vie solo, du coup cette fois sur les routes, j'ai voulu quelque chose de beaucoup plus récent, parce que justement j'avais envie de me décharger de m'affranchir complètement de la charge mentale de la mécanique, parce que forcément c'est quelque chose qui arrive. Il faut pas oublier que ton van devient ta maison, et ça veut dire que le jour où il y a une panne, et t'es immobilisé en dehors de ta maison. Donc c'est quelque chose, ça on en est revenu. Alors c'est chouette, parce que à l'époque, j'ai pas eu trop de problèmes moi avec Bestiole, mais en tout cas dans le lieutenant, dans le premier camion, on a eu quelques problèmes techniques et c'était un gros gros gabarit, donc tous les garages ne pouvaient pas le recevoir d'une, et on a eu quand même de la chance de tomber sur plein de gens hyper bienveillants qui ont compris que nous, ben, si on n'avait pas le van, en plus on était avec le chat, donc c'est-à-dire que ça aurait été que nous deux, on se gère, mais avec le chat je te raconte pas, et que voilà, c'est en gros, s'il fallait résoudre le problème, il fallait qu'on puisse ben, soit dormir sur le parking du garage, soit être fait dans la journée, enfin il y avait vraiment ces contraintes là, donc ouais, quand tout va bien, tout va bien. Par contre, dès qu'il y a un petit truc comme ça, quand même, ça bouscule un petit peu le quotidien. Donc, il y a ce côté mécanique. Et donc, quand j'ai envisagé le second van, je voulais quelque chose de récent pour justement ne pas être trop... d'avoir un véhicule plus fiable, en fait. Et puis finalement, bah, le tout mignon petit van jaune que j'ai croisé a eu raison de moi et de ma charge mentale. Et je l'ai quand même pris. Et voilà. Par contre, moi, j'ai essayé de m'en prémunir. Alors, je me suis inscrite à un CAP que j'ai pas mené à bien parce que j'avais pas le temps, trop de boulot, trop machin, plus la vie, tout simplement. Mais j'ai quand même fait des stages en garage, en fait, il y a deux hivers en arrière, pendant deux mois, là j'étais en garage. Alors évidemment, en deux mois, on fait absolument pas le tour de la mécanique, mais par contre, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai fait la distribution de mon camion avec mon tuteur de stage, en fait. Donc, même si je suis pas capable de tout faire, je comprends beaucoup mieux. Et en tout cas, voilà, quand j'arrive en garage, je peux un peu expliquer le bruit, le machin, le truc. Donc, ça c'est cool. Donc, je pense que c'est vraiment ces deux choses-là, c'est que. Encore une fois, on est dans un véhicule, donc tout bouge. C'est-à-dire dès qu'on roule, tout bouge dans sa maison, quoi. Et tout est exacerbé. Tout prend des proportions monstrueuses, quoi. Donc il faut arriver à lâcher prise. Et je pense que c'est ça le plus dur. Je pense que c'est arriver à se défaire un petit peu de, ouais, des mécaniques qu'on avait dans notre ancienne vie et prendre un peu les choses comme elles viennent et pas paniquer, y a toujours une solution. Et puis c'est hallucinant aussi quand on voyage, mais ça c'était n'importe quel type de voyage, de se rendre compte à quel point en fait les gens sont bienveillants.
Clémence, il y a un autre aspect quand on est nomade et qu'on part avec son van sans vraiment savoir où on va, il y a aussi la question de où on va et où est-ce qu'on le pose, parce qu'on peut trouver des spots absolument paradisiaques où on se dit waouh, mais je vis ma plus belle vie, où on peut se retrouver sur le parking d'un supermarché.
Oui, et puis ça arrive souvent, et puis c'est pas si mal, c'est les nuits où il y a du vent, les nuits où il pleut beaucoup, c'est chouette de se dire, voilà, là je suis là, je risque pas de m'embourber, le camion va pas trop bouger parce que je peux m'abriter derrière un bâtiment, ouais, ça arrive, et c'est pas grave, en fait. Tu parlais du rêve à la réalité, je pense que Instagram aujourd'hui, alors déjà à l'époque, tu sais, quand je suis partie, même s'il y avait pas beaucoup de gens de vanlifers, en tout cas en France, en Europe, il y en avait quand même quelques-uns avec qui j'avais pu échanger, pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns qui sont devenus des amis, d'ailleurs, pour la plupart depuis. Auxquels j'ai pu poser des questions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image véhiculée sur les réseaux sociaux est complètement différente de l'époque. Parce qu'à l'époque, on essayait vraiment de montrer la transparence, quoi. C'est-à-dire que c'est cool, mais bon, voilà, le jour où il fait pas beau, on est dans notre van, on peut pas se tenir debout et c'est vraiment pas cool, quoi. Et c'est ce que j'essaie, moi, de dire aux gens au maximum. Aujourd'hui, la vie en van, c'est toutes les nuits sur un spot de rêve, en pleine nature, avec une vue de dingue. Il fait beau, évidemment. Il y a un coucher de soleil. Parfois, j'ai même une terrasse sur mon toit et je fais du yoga. Enfin, voilà, on est vraiment quand même sur des images ultra clichés. C'est pas ça, la van life, quoi. Et pas du tout, évidemment. Et c'est marrant, d'ailleurs, je sais pas pourquoi les gens veulent absolument... retranscrire cette image sur les réseaux, parce qu'évidemment il y a des moments magnifiques, moi j'ai la première, hein, j'ai partagé des images magnifiques de certains couchers de soleil. Pour autant, même si j'étais en bord de mer, j'étais sur une place de parking au bord de la plage et la mer, tout ça, je veux dire, j'ai pas besoin d'être au milieu de la nature pour vraiment vivre des moments exceptionnels et me sentir bien et libre. Et c'est aussi ce que je dis beaucoup aux gens qui ont envie de voyager en van, mais qui se disent ah, mais moi je fais pas ça, je suis pas trop aventurier. Il y a autant de modes de voyage, de vie en van qu'il y a de personnes, en fait. Chacun fait comme il veut. C'est pas parce que tu veux voyager ou vivre en van qu'absolument tu dois faire du surf ou tu dois faire de la rando et des trails et que tu dois te mettre dans des situations pas possibles avec ton van. Je veux dire, tu peux tout à fait vivre en van et adorer pouvoir te poser pas trop loin d'une ville et passer une journée à découvrir une ville et l'architecture et le patrimoine. Tu peux te régaler à passer quelques nuits, même une semaine dans un petit village parce que tu trouves que l'ambiance elle est chouette, et te nourrir de juste des odeurs et de la langue que tu entends autour de toi. Enfin, il y a mille façons de voyager, quoi. Et souvent, c'est les plus intéressantes, sont pas celles qu'on voit sur les réseaux, je trouve.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
qui fait qu'on est comme ça à vouloir montrer notre meilleure vie tout le temps? Enfin, c'est peut-être un petit peu un copier-coller de nos sociétés de consommation aujourd'hui. On veut toujours vendre du rêve et l'illusion.
Bah oui, tout à fait. Mais en fait, moi, la question même que je me pose, c'est pourquoi c'est absolument ce moment, par exemple, de coucher de soleil dans pleine nature, qui représente le bonheur, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est dit ça, c'est génial, quoi. Je comprends pas. Je pense qu'il y a autant de beauté et de bonheur dans un moment partagé, même peut-être sur une aire de camping-car, parce que on se retrouve avec notre véhicule qu'on trouve beau, et puis il y a finalement la famille qui en sort, elle est cool, et du coup on passe un bon moment. Moi, je trouve qu'il y a certainement plus de bonheur et de beauté dans des moments comme ça. Je pense que c'est le côté, pour le coup, c'est l'esthétique, tu vois. Je pense que c'est même pas, on parle même plus de bonheur, on parle d'esthétisme, tu vois, on parle de beauté, mais de beauté, c'est un peu comme les canons de la beauté d'ailleurs, tu sais, comme la mode, ce genre de choses, en fait. C'est cette beauté là un peu, entre guillemets, plastique, tu vois, de ce qu'on veut représenter, en fait. On parle même plus de bonheur sur ces photos là d'ailleurs, on parle de beauté lisse.
Bon, en tout cas, la van life reste quand même quelque chose d'assez fabuleux pour ceux qui y ont goûté.
Hein,
c'est quand même cette notion de liberté, on n'en a pas encore beaucoup parlé.
Ouais.
On a vu quelques contraintes, on parlait de la météo, il y a aussi cette notion de où se garer. Alors, je sais qu'il existe des applications aussi qui peuvent donner des plans pour pouvoir se garer. Alors, je vais la citer, Park4Nights, qui utilise beaucoup de van lifers, où c'est géolocalisé. Et puis, quand tu arrives dans une région, tu regardes un petit peu les différents spots. Des fois, c'est décrié aussi, cette application, parce qu'on dit, maintenant, il y a partout du monde et l'idée, c'est d'aller là où il n'y a personne.
Alors, en fait, je pense que ce qui est décrié, je pense que les gens mélangent un peu tout. C'est-à-dire que Park4Nights, en fait, c'est décrié parce que malheureusement, c'est quand même une application participative. Et ça veut dire que il faut participer, il faut poser des idées de spots, ce genre de choses. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens utilisent l'application, mais ne la nourrissent pas. Donc forcément, ça ne peut plus fonctionner, quoi. À un moment donné, il faut que tout le monde y mette du sien. Donc forcément, il y a beaucoup de spots, mais pas de nouveaux spots. Et du coup, on se retrouve tous au même endroit. Ce n'est pas la faute de l'application. C'est souvent la faute de l'usager. Après, l'application a quand même... en tout cas, les gens qui se cachent derrière l'application ont la nécessité aussi de sensibiliser au bon sens et bonne conduite, tout ça. Ce qu'ils font, d'ailleurs, depuis, parce que justement, ça a été décrié. Et du coup, voilà, ils essaient quand même de mettre le doigt sur certaines choses pour que les usagers de l'application fassent du mieux possible. Bon, voilà, après, ils sont malheureusement pas garants des comportements de chacun.
Parle-en de ces comportements, parce que c'est vrai qu'on voit des fois des coups de gueule par rapport à des papiers toilettes qui traînent partout sur les spots de vanlifer.
Ouais, ça, c'est le truc le plus évident, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y a aussi une sorte de pollution visuelle, tu vois. Alors, quand tu as un petit van comme bestiole, tu déranges personne parce que c'est mignon, tu vois. Mais bon, là, quand tu arrives avec un fourgon, un utilitaire un peu plus récent, ou un camping-car même, tu vois, il y a ce truc où forcément, tu n'as pas envie d'aller là. Je pense que les gens, dans leurs usages, ne sont pas toujours respectueux de ce qui se passe autour d'eux, en fait. Ils arrivent, eux, ils veulent la plus belle vue, ils veulent peut-être parfois pour Instagram, ils veulent la plus belle vue, ils veulent être au premier rang, ils veulent tout ça. Et ils ne se rendent pas compte que peut-être qu'ils sont devant une terrasse de café, peut-être qu'ils sont dans un endroit où, si tout le monde fait comme eux, la nature, ça ne va pas lui faire du bien. Il y a aussi des comportements plus simples. En fait, souvent, les gens confondent aussi bivouac et camping sauvage. Ça, c'est une notion, une différenciation qui est importante de faire. Le bivouac, c'est dormir une nuit. Voilà, c'est arriver assez tard, partir plutôt tôt le matin, profiter de l'endroit, mais partir, évidemment, rien laisser derrière soi. Tu parles de déchets, c'est exactement ça. Et partir. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de camping sauvage interdit, parce que le camping sauvage, pour le coup, c'est vraiment se poser à un endroit, rester 3-4 jours, sortir les tables, les chaises, les machins. Là, forcément, y a une vraie empreinte sur là où on se pose. Peu importe où on se pose, on peut parler de pleine nature ou de petits villages ou de parking. Enfin, forcément, on a un impact. Et après, évidemment, ne pas perturber la nature autour. Hein. On va avoir des animaux, on va avoir tout ça. Il y a plein de gens qui on en parle, on est sensibilisés. Et je pense que parfois, on fait des bêtises. Et je me dis qu'il y a des gens qui ne considèrent même pas cette question-là, quoi, évidemment.
Il y a une autre réalité qui est intéressante à observer aujourd'hui. Donc, tu me parles de la van life en 2016, avant l'arrivée des réseaux sociaux. Et la van life aujourd'hui, en 2024, il y a des barrières qui sont arrivées pour limiter la hauteur des vannes à 2 mètres. Il y a des policiers qui passent pour demander aux gens de partir. Enfin, il y a toute une évolution aussi qui est en train d'opérer sur le territoire.
En fait, Et là encore, c'est vraiment forcément des sujets de discussion qu'on a toujours beaucoup entre voyageurs. Et puis, moi, je travaille aussi pour un professionnel du tourisme. Alors du coup, forcément, je suis confrontée à ces problématiques-là. Mais c'est vrai que... et c'est là où c'est dommage, parce que les communes ne comprennent pas toujours que interdire, c'est pas forcément une solution. Je pense qu'il vaut mieux peut-être essayer de cadrer, offrir des solutions chouettes et peut-être plus intelligentes aux voyageurs pour justement éviter la saturation de certains spots. Des petites aires où les gens un peu sympas... où les gens peuvent venir poser, recharger les batteries, vider les cuves, pour quelques euros. Je veux dire, les gens, si on leur offre une aire sympa, ils vont y aller. Enfin, et ça, c'est sûr, tous les voyageurs te le diront. Et après, voilà, il y a ces communes qui sont complètement dépassées aussi. Le problème, c'est souvent les hautes saisons, évidemment. Je pense à la côte ouest, par exemple, de la France, où ils vont poser des barrières, ils vont poser des panneaux interdits, soit dit en passant. Les préfectures posent des arrêtés, ce qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire, ça, il faut le savoir, ou interdisant les gens de dormir dans leur véhicule, tout ça, ce qu'ils, encore une fois, n'ont pas le droit de faire. Après, ça dépend de la taille du véhicule. C'est-à-dire qu'évidemment, si on est sur un véhicule comme un California, donc un format voiture, il n'y a pas de souci. Quand on est un camping-car, évidemment, là, ils ont le droit. Par contre, pour tout ce qui est véhicule qui rentre sur une place de parking classique, en fait, ils n'ont pas du... Alors, ça a peut-être évolué parce que je n'ai pas trop fait gaffe à la législation. Mais en tout cas, au début, il y a quelques années en arrière, la moitié de ma vie nomade, c'était illégal. Alors, les arrêtés existaient. Et puis, il y a des moments où on n'a juste pas envie de tergiverser pendant 30 ans et puis de commencer à rentrer en discussion avec les policiers. On n'a pas juste pas envie, donc on bouge. Mais légalement, je crois qu'il n'y avait pas trop de support là-dessus, quoi. Après, encore une fois, pour moi, il y a le bon sens. Moi, je n'ai pas du tout envie de me retrouver à un endroit où je peux poser problème, où finalement, il va y avoir trop de monde, trop de bruit. Enfin, pour moi, c'est le bon sens. Je ne vais pas me mettre sur la côte ouest en plein été, quoi. C'est juste ça. Après, si on a envie forcément d'y être, évidemment, eh ben, il faut se confronter aussi à la réalité du site qui reste un site touristique et sur lequel il va y avoir du monde. Et puis forcément, eh ben, on peut pas bloquer une place de parking pendant une semaine. On parlait encore de bivouac camping sauvage. Hein, pendant une semaine, alors qu'il y a des touristes, il y a besoin d'avoir un turnover, tout simplement, quoi. Donc, je sais pas. Après, c'est comme pour tout. Je parle de bon sens, pour moi c'est ça en fait. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont tolérées en France, on n'est pas trop mal lotis je trouve quand même sur pour les vannes. C'est juste qu'après voilà, sur certaines communes hyper touristiques, on ne peut pas non plus leur demander de nous laisser occuper toute une rangée de places cool devant l'océan, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Qu'est-ce qui peut arriver après la vie en van? Quand on est ça c'est pareil pour tous les voyageurs en fait. Qu'est-ce qu'on fait après quand on rentre? On me pose souvent la question, quoi. Et t'as pas peur et tout? Et si tu dois rentrer, qu'est-ce que tu vas faire? Là t'as tout lâché. Et ben en fait, déjà non, j'ai pas peur. Et puis souvent, c'est un peu les choses que j'ai dites aux gens avant de partir. J'ai dit mais au pire, qu'est-ce qui se passe? Ben au pire, je reviens et puis je me remettrai dans la matrice entre guillemets. Il y a ça. Et puis et je crois qu'aussi un des courants, et c'est rigolo parce qu'en fait on a tous la même envie, je pense qu'on a tous rêvé avant même que la vie en van soit devenue quelque chose, je pense qu'on a tous rêvé, moi c'était la cabane au bord de lac au Canada, tu vois, c'était vraiment cette image là pour moi, c'était le rêve absolu dans ma vie, tu vois, vivre sur une petite cabane, dans une petite cabane à côté des arbres de toutes ces couleurs, à côté d'un lac, et aujourd'hui je trouve que cette possibilité ressemble pas mal à la tiny house, donc je me dis peut-être que l'étape d'après c'est la tiny house, tu vois, et marrant parce que pour beaucoup de voyageurs, d'amis à moi qui ont arrêté de vivre en van, aujourd'hui, ils ont acheté une maison, mais souvent c'est des ruines, des choses comme ça, avec surtout un grand terrain. Et voilà, ils construisent eux-mêmes leur prochain rêve, en fait. Et c'est chouette. Ouais.
Construire son rêve, ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Quoi.
Tout à fait, exactement. Et souvent, on me dit, ah là là, t'as de la chance. J'ai dit, non, j'ai pas de la chance. Ça n'a rien à voir avec la chance, en fait. J'ai eu envie et j'y suis allée, quoi. Et j'ai pas du tout, alors évidemment j'y ai pensé, mais j'ai pas accepté un seul moment que ça puisse être un échec, en fait, juste j'y suis allée et puis de toute façon il y a toujours des solutions. Donc tu sais ce qu'on dit souvent, on leur a dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.